7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une question, peut-on encore s'exprimer librement à l'heure des réseaux sociaux ? J'ai pas dit sur les réseaux sociaux, j'ai dit à l'heure des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un étonnant paradoxe parce que vous le savez, tout le monde peut écrire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et en même temps, le contrôle de la parole publique est devenu omniprésent. Les publicités jugées sexistes sont désormais interdites en Grande-Bretagne et le curseur arrive très très vite, je peux vous le dire, on l'entendra. Le quotidien américain The New York Times a décidé de ne plus diffuser de caricatures de presse suite au tollé provoqué par un dessin de Benjamin Netanyahou. La liste des sujets et des victimes potentielles d'offenses s'allonge au fil des années. Il y a bien sûr les femmes, les minorités, les personnes en surpoids, les personnes de petite taille, les végétariens, les personnes qui pratiquent une religion. Certains diront déjà qu'on ne peut pas mettre dans le même sac les milliards de croyants avec les personnes de petite taille, si ce n'est peut-être au nom de l'offense ressentie. Alors le politiquement correct prend-il vraiment le dessus sur les libertés d'expression et d'opinion ? On va en discuter avec nos invités. Et quant à vous, bien sûr, les voisins, y a-t-il dans votre pays des sujets que vous interdisez de discuter par peur de blesser l'autre ou peut-être aussi tout simplement d'être insulté, de ne pas être compris ou parce que le débat est tout simplement impossible. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas vous demander votre opinion personnelle sur tel ou tel sujet, mais plutôt ce que vous vous interdisez, les sujets dont vous vous interdisez de parler et pourquoi. Nos invités dans le studio, Michel Hermant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Bourgogne et vous publiez « Aimons-nous encore la liberté » aux éditions Plon. Également avec nous en studio, le dessinateur caricaturiste tunisien Z, bonjour.
Bonjour.
Et vous tenez à l'anonymat, vous me l'avez encore redit là il y a quelques secondes. Vous êtes membre de Cartooning for Peace, qui est un réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent avec humour pour le respect des cultures et des libertés. Ça aussi, d'ailleurs, ça peut être discuté. Nous serons aussi en ligne dans quelques minutes à Dakar avec Mamiko, qui est animatrice chroniqueuse sur Urban Radio Sénégal et qui a créé surtout un groupe Facebook fermé qui s'appelle Femme Chic, qui regroupe 156 000 membres, que des femmes. Elle nous expliquera pourquoi et de quoi on parle sur ce groupe pour qu'il soit aussi fermé avec des messages aussi anonymisés. Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Pour nous laisser des messages aussi, c'est le WhatsApp. Et vous pouvez aussi répondre d'ailleurs dans le même temps à notre sondage Instagram qui n'a aucune valeur scientifique, je vous le dis tout de suite, comme ça au moins j'aurai pas de problème. Peut-on encore s'exprimer librement à l'heure des réseaux sociaux ? Majorité d'ailleurs de réponses non aujourd'hui. Voilà, je vous rappelle le numéro 33 1 84 22 71 71. Des messages postés sur nos réseaux. Nadie est à Libreville. Elle dit « Moi, j'ai aucun tabou, aucun sujet tabou. Discuter de tout apporte des connaissances. Maintenant, le problème, ce sont les interlocuteurs. » Oui, on est bien d'accord. Ninel, à Yaoundé, au Cameroun. « Moi, je m'auto-censure sur tout ce qui est ordurier, négatif et qui parle de sexe. » Mais sur ma page, je parle d'un sujet assez tabou, le handicap. Kevin, à Lubumbashi, dans le sud de la RDC. Je me rappelle un jour, j'avais posté un message sur la page de Priorité Santé sur RFI sur la sexualité. Après, j'ai reçu des messages privés. Je me suis sentie la plus mauvaise personne du monde, si l'Afrique pouvait comprendre. Évidemment, beaucoup d'auditeurs évoquent les sujets politiques. Christus à Kinshasa, chez nous en RDC, c'est vraiment difficile de parler de politique et aussi de sexualité. La liberté d'expression et la démocratie sont des slogans, mais au fond, la politique est vraiment, vraiment un sujet tabou. Alors bien sûr, vous nous appelez pour discuter avec nos invités au 33 1 84 22 71 71 et on va essayer de faire cette géographie du politiquement correct et des sujets, on va dire, chauds aujourd'hui.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
On accueille un premier voisin, Fouba, qui a 29 ans, qui est à Niamey, au Niger. Bonjour Fouba.
Bonjour Emmanuel.
On vous écoute Fouba. Alors vous, quels sont les sujets compliqués pour vous ? Je sais que vous aimez bien écrire sur Twitter. Hein.
Oui, j'écris beaucoup sur Twitter et sur Facebook. Et pour moi, il n'y a plus de temps.
Ah ben, on vient de vous perdre. Alors, je ne sais pas si c'est de la censure, mais... bon. On va essayer de vous rappeler. Paul est en ligne avec nous d'Abidjan. Bonjour, Paul.
Bonjour, Emmanuel.
Vous écrivez aussi régulièrement, vous débattez sur les réseaux sociaux ?
Oui, je débat sur les réseaux sociaux. J'interagis avec d'autres internautes, mais pas sur tous les sujets.
Ah, pourquoi ? Et lesquels vous n'abordez pas ?
Bon, nous avons tous une éducation particulière, une culture. Voilà, nous sommes entourés des proches, des supérieurs hiérarchiques, des parents, des collègues. Donc, il y a des sujets qui fâchent, notamment en Côte d'Ivoire, au niveau de la politique. La politique est très sensible. Voilà. Choisir un camp, c'est d'exclure l'autre. Voilà, nous sommes entourés des proches.
Alors, attendez, vous n'allez pas nous dire qu'en Côte d'Ivoire, on ne parle pas de politique, surtout maintenant, à quelques mois d'une élection présidentielle.
Si, on parle de politique. Mais la situation est tellement sensible qui fait que lorsque vous choisissez un camp, c'est vous excluez de manière, je vais dire, indirecte l'autre camp. Alors qu'on a des collègues, on a des amis, les positions ne sont pas forcément les mêmes.
Ouais. Et ça veut dire que dans la réalité, c'est-à-dire loin de la virtualité des réseaux sociaux, le débat est compliqué sur la politique avec des collègues, avec de la famille, avec des amis qui n'ont pas les mêmes opinions que vous ?
Effectivement.
Donc, du coup, vous préférez éviter d'aborder le sujet ?
Éviter carrément.
Ouais, mais ça va être plus en plus difficile au fur et à mesure que l'échéance électorale va se rapprocher, Paul, non ?
Oui, c'est tellement sensible. Et les gens n'ont pas généralement une critique objective. Voilà, soit c'est du suivisme en fonction de certaines connotations. C'est pas trop objectif.
C'est ça. Sous-entendu, vous l'êtes davantage.
Voilà. Donc, c'est un sujet on laisse. Il y a des sujets sur lesquels on peut intervenir au niveau de la culture, au niveau de la littérature, au niveau des faits sociaux. Il n'y a pas de problème. Mais
donc vous parlez politique avec ceux qui ont les mêmes opinions que vous, finalement ?
Non, j'évite même.
Ah, même avec ceux qui ont les mêmes opinions que vous ? Ah bon, alors
oui,
vous parlez avec vous-même, tout seul,
dans
votre chambre à coucher, finalement, c'est ça ?
Voilà, j'ai fait une analyse moi-même. Je regarde, parce que moi, j'ai une position, je vais dire, très tranchée. Voilà, oui. Je ne suis pas un camp de manière aveugle. Non, je suis là, je regarde ce camp, voici ses limites.
D'accord. Vous remarquerez, Paul, qu'on ne va pas vous demander pour quel camp vous êtes, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, hein, mais c'est plutôt sur quoi vous vous auto-censurez. On a bien compris que finalement, c'est un sujet qui vous passionne visiblement et que vous n'abordez pas, c'est fort dommage. On a récupéré Fouba, qui est à Niamey, au Niger. Fouba, on vous écoute, donc on le disait, vous aimez bien écrire sur Twitter. Qu'est-ce que vous interdisez à l'heure actuelle ?
Moi, Emmanuel, je ne m'interdis rien du tout. Hein. Je parle de tout. Parce que pour moi, il n'y a plus rien de tabou. Le tabou, c'est une censure. Et la censure est une limitation de la liberté d'expression.
Donc vous parlez de religion sur Twitter, par exemple ?
Je parle de religion, je parle de sexe, je parle de politique, je parle de tout. Parce que pour moi, le tabou est ce qui empêche la société africaine d'évoluer. Nous sommes une société de coexistence. Nous avons des chrétiens, des musulmans, des athées, des animistes. Alors je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons nous empêcher de parler de religion ou de sexe. Mon père, il est musulman, ma mère, elle est chrétienne. Aujourd'hui, j'entre dans un débat, peu importe, hein, je parle de ce que je veux.
Et est-ce qu'il y a des règles sur les termes du débat pour vous, sur les termes de l'écriture ?
Pour moi, tout doit se faire dans le respect de l'autre, bien sûr. Je dois toujours respecter la vie et l'opinion d'autrui, là. Mais après, aussi, lui, il a la liberté d'accepter ou de réfuter ce que je dis.
Votre poste récemment qui a le plus choqué, où vous êtes attiré le plus de réactions, c'était quoi ? C'était sur quel sujet ?
Un, c'était sur l'homosexualité. C'était un post sur Facebook. J'ai défendu un homosexuel tchadien, Ahmad Fraîcheur, sur Facebook, et ça m'a valu beaucoup de critiques. Les amis m'ont appelé, les gens m'ont dit que je suis pro-homosexuel, pourquoi est-ce que je le défendais. Et tout après, j'expliquais qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Il a choisi d'être homosexuel. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait ?
Vous avez laissé votre poste ? Vous l'avez retiré ? Vous avez...
Non, j'ai dû malheureusement le supprimer. Parce que une personne très proche à moi me l'a demandé. Et vous savez, en Afrique, quand un aîné vous demande certaines choses et qu'il vous...
Au nom de quoi il vous l'a demandé ? Ah, bon, on n'aura pas la réponse. Je crois qu'il a dit au standard que c'était une personne qu'il ne voulait pas froisser. Hein. C'est le terme qu'il a employé lorsqu'il a appelé notre standard. En tout cas, merci à Fouba, merci à Paul. Michel Herman Z, que vous inspire là, ces témoignages très, très quotidiens, finalement, d'une autocensure ?
Ouais, écoutez, deux choses. La première chose, c'est Paul qui suggère, au fond, qu'il vit dans un pays où le pluralisme n'est pas respecté. Effectivement, le pluralisme, c'est la base de la démocratie. La démocratie, c'est pas simplement l'élection, hein, c'est aussi le respect des opinions de chacun. Et il a l'air de nous dire ça. Et puis, j'entends également dans le témoignage de Fouba, finalement, que les réseaux sociaux sont un espace de liberté, alors que on a l'air de considérer en Europe, depuis quelques mois, depuis peu de temps, moi je le considère depuis longtemps, que les réseaux sociaux sont un déversoir dans lequel on exprime beaucoup plus des humeurs que des idées. Hein, je vise pas simplement les colères qui s'expriment, je pense aussi aux opinions des politiques, simplement, hein, qui communiquent par Twitter ou par Facebook, ils vous assènent des vérités, en quelque sorte. Hein. Souvent, d'ailleurs, avec des points d'exclamation. Donc, je retiens, au fond, du témoignage de Fouba, que le réseau social, c'est un espace de liberté. Et donc, si vous voulez, une technique, elle n'a pas une nature. Tout dépend de la manière dont elle est utilisée et du contexte politique dans lequel elle est utilisée. Mais bon, il finit par dire quand même que il y a tout de même une autocensure, puisque quelqu'un lui a demandé d'enlever un poste. Quoi. Hein. Donc, si vous voulez, on n'est jamais libre soi-même. Hein. On ne fait jamais, même lorsque l'on décide d'exprimer clairement ses opinions, librement ses opinions, on n'est jamais libre totalement de les exprimer sans les autres. La liberté, ce n'est pas la licence.
Z, caricaturiste tunisien.
Oui, moi, le témoignage de Fouba m'a interpellé, parce que l'idée qu'il était libre de tout exprimer avait sa limite. C'était à un moment donné un ancien, je crois ce qu'il disait, ou un parent, qui lui avait quelque part un peu suggéré, peut-être pour ne pas froisser la famille, de retirer son tweet. Et je trouve ça très intéressant parce que moi, par exemple, dans mon travail de caricaturiste, mon travail, quelque part, presque, c'est de la transgression. Donc moi, je m'amuse avec les limites et tout ça. Mais il est vrai que peut-être, pour des raisons alors familiales ou culturelles, on est peut-être souvent peut-être plus vexé par des critiques qui viendraient des proches que par la police ou par la justice elle-même. Mmh. C'est-à-dire il y a quelque part cette limite qui est peut-être culturelle.
C'est la corde sensible, finalement.
C'est la corde sensible.
Manquer de respect à ce qu'on aime, sous-entendu.
Oui, c'est un peu ça. C'est ce que j'ai peut-être un peu compris par Fouba, ce qu'il essaie de dire. Et je trouvais ça intéressant parce que des fois aussi, ça me renvoie à certains dessins. Je me dis, que pourrait penser ma mère, que pourrait moi. Mais effectivement, j'essaie des fois de dépasser tout ça, mais cette peur ou cette crainte-là, des fois, peut prendre le dessus. Et je trouve ça vraiment intéressant, ce type de autocensure, en fait.
Michel Herman, qu'est-ce qui a déclenché l'envie d'écrire sur la liberté d'expression? Justement, on le disait, à une époque où on peut quand même se défouler, écrire sur n'importe quoi. Vous dressez une liste non exhaustive de créations artistiques, alors vous donnez des exemples très, très européens ou nord-américains qui seraient complètement impensables aujourd'hui. Et c'est vrai que je pense par exemple à la chanson de Serge Gainsbourg,
Lemon Incest, qui pourrait être qualifié de, qui pourrait considérer comme une chanson qui fait l'apologie provocante de l'inceste, hein, par exemple, aujourd'hui, même s'il faut quand même pas oublier que les rappeurs aujourd'hui, quand même, ne s'auto-censurent pas en permanence, hein. Mais est-ce que vraiment on revient de loin ou c'est votre vision et il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas dire il y a 20 ans ?
Écoutez, votre question est fondamentale. Moi, je suis un philosophe des émotions et des passions. C'est ça qui m'intéresse. Et après avoir écrit sur la vengeance, sur l'amitié, enfin bon, le sujet de la liberté s'est imposé à moi comme un sujet social, à la fois passionnel et social. Pourquoi ? Parce que c'est, en tous les cas en France et en Europe, un mot que l'on n'entend plus. On entend le mot égalité, mais on n'entend plus du tout le mot liberté. Et je me suis demandé pourquoi ce mot avait disparu.
Et pourtant, je crois que quand il y a des sondages hein, sur la fameuse phrase qui constitue la République française, liberté, égalité, fraternité, je crois que le mot liberté dans les sondages arrive quand même largement comme mot le plus important. Hein.
Le mot arrive en tête, mais en même temps, il y a différents sondages qui ont été faits à propos des libertés individuelles, des libertés politiques, après par exemple les attentats que la France a connus ces dernières années. Et là, les réponses sont mitigées. Bien des gens seraient d'accord pour aliéner un certain nombre de libertés, soit pour plus de sécurité, soit au fond pour s'auto-censurer. Et moi, j'ai été extrêmement frappé par un certain nombre de réactions à la suite des attentats, des gens disant « mais les caricaturistes de Charlie Hebdo, par exemple, sont allés trop loin. »
Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est la sécurité avant la liberté,
alors, sous-entendu. Voilà, c'est la peur. Nous sommes également dans un monde de peur. Hein, de peur liée au devenir de la planète, de peur liée à la situation géopolitique, de peur liée à la mondialisation économique et surtout financière. Le fait que le mot liberté ait disparu aujourd'hui, ou en partie du vocabulaire politique, est un signe, hein, et même plus un symptôme, du fait que nous vivons dans un monde de peur, que nous vivons dans un monde, pardon, un tout petit mot philosophique, beaucoup plus obscien, c'est-à-dire hein, une sorte de monde dans lequel nous serions en quelque sorte pas tant que cela protégés par les lois et les institutions, que dans un monde des Lumières, un monde rousseauiste, hein, qui serait le monde de la démocratie. Nous sommes en plein paradoxe, et si vous voulez, pour conclure en un mot, en réponse à votre question qui est vaste, Emmanuel, moi j'ai une peur, un sentiment, car la liberté est un sentiment, on y reviendra peut-être, c'est que la liberté des Lumières, la liberté européenne, elle a deux siècles, c'est un cycle, et que ce cycle prenne, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années peut-être, prenne fin.
Alors, peut-on s'exprimer librement à l'heure des réseaux sociaux ? Ça balaye beaucoup d'exemples, beaucoup de sujets, des sujets très intimes, des sujets beaucoup plus collectifs et politiques. On donne la parole à Mamiko, qui est en direct avec nous de Dakar, animatrice chroniqueuse sur Urban Radio Sénégal. Bonjour Mamiko.
Bonjour Cécile.
Ouais, c'est Emmanuel, moi. Vous êtes en direct sur
Emmanuel.
RFI, chez 7 milliards. Mamiko, vous avez créé un groupe Facebook qui s'appelle Femme Chic, qui regroupe quand même près de 156 000 membres, que des femmes. C'est un groupe qui est très fermé, dans lequel les femmes postent souvent d'ailleurs en message privé et vous demandent ensuite de poster leur message en anneau, c'est-à-dire anonyme. Mmh. Pourquoi ce groupe de Femme Chic ?
Bon, Femme Chic, bonjour tout le monde, tout d'abord, et merci aussi pour l'invitation. Femme Chic, c'est un groupe de femmes, c'est une plateforme qui regroupe des femmes qui pourront entre elles parler de différents sujets, allant de la vente, allant de la beauté, de la mode, allant aussi de tout ce qui concerne la femme sur le plan juridique, mais aussi sur le plan de la santé aussi. Des questions qu'on se pose ensemble et avec lesquelles on trouve aussi des solutions. Mais aussi, c'est un groupe où les femmes viennent poster leurs problèmes en anonyme en espérant trouver des solutions.
Mmh. Mais elles veulent de l'anonymat parce que ce sont des problèmes très intimes et qu'on n'a pas envie de balancer sa vie privée comme ça sur un groupe Facebook, ou aussi parce qu'on touche à des sujets qui ne sont pas politiquement corrects.
Elle poste en anonyme parce que ce sont des vécus très intimes. Et aussi, elles ne veulent pas aussi être là sur le marché public et que tout le monde connaisse leur vie privée. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes au Sénégal. Oui. Au Sénégal, où le sautouré joue un rôle très important dans notre vécu.
Le sautouré, c'est la pudeur, hein, Wolof, c'est bien cela.
La pudeur, la pudeur. Le fait de garder les choses en vie intimement pour tous les problèmes.
Mais alors justement, est-ce qu'on peut être une femme chic qui déblatère sur les réseaux sociaux en anonyme, mais qui déblatère quand même et qui lâche des choses, et en même temps respecter cette fameuse pudeur?
Bon, vous savez, le fait de poster en anonyme, c'est juste une forme de thérapie, parce que ce sont des gens qui veulent parler, qui ont des problèmes et qui souffrent à l'intérieur.
Ouais. Mais donc, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on poste en anonyme, il faut poster en anonyme, et c'est pour ça qu'on vous demande, s'il te plaît, Mamiko, poste mon message anonyme. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de tabous dans la société sénégalaise aujourd'hui qu'il y a 20 ans?
Bon, pour ce cas précis, je pense que le Sénégal ou l'Afrique n'a jamais changé sur ce plan. Le tabou a toujours resté et le même depuis des décennies. Donc, s'ils se trouvent dans cette position, c'est pour ne pas mettre à nu leur vie privée. Donc, la liberté d'expression.
Il n'y a pas plus de tabou aujourd'hui sur la polygamie, par exemple? Il n'y a pas plus de tabou aujourd'hui sur la religion?
Si, bien sûr, il y a beaucoup de tabous sur la polygamie, sur la religion et sur même d'autres choses, ici au Sénégal. Ça a toujours été comme ça.
D'accord.
Avec le sautouré.
Pour vous, ça a toujours été comme ça. Donc, simplement aujourd'hui, on a l'avantage de pouvoir l'exprimer en anonyme sur Facebook. Comme ça, on ne prend pas de risque. Merci beaucoup, Mamiko, d'avoir été en ligne avec nous. Zed, vous, comment vous avez vu, en tant que dessinateur caricaturiste tunisien, membre de Cartooning for Peace, donc ce réseau pour une indépendance des caricaturistes et la liberté d'expression par le dessin, vous avez commencé à vous exprimer en tant que caricaturiste sur votre blog en Tunisie. C'était sous Ben Ali. Comment vous avez vu évoluer votre situation en tant que caricaturiste par rapport à la situation du pays?
Alors moi, quand j'ai commencé, anonymement, justement, parce que je savais que le débat n'était pas possible en Tunisie.
Vous avez commencé d'ailleurs à dessiner sur quoi au départ?
Alors au début, justement, je ne voulais pas créer de polémique. Moi, je voulais dessiner sur des sujets liés à l'urbanisme, parce que je suis architecte. Et je voulais tout simplement contester, critiquer un projet qui menaçait un peu une sorte de lac où on comptait construire un port pour yachts avec des tours et tout ça. Donc c'était vraiment une sorte d'interrogation un peu technique, d'architecte, mais qui petit à petit m'a amené à dessiner pour m'ouvrir un plus large public. Puis après, je me suis rendu compte que je tournais un peu autour du pot, quoi. Quelque part, s'il y avait ce genre de projet, c'est parce qu'il n'y avait pas de concertation dans le pays. C'est parce que tout simplement nous étions dans une forme de dictature. Donc c'est ce qui m'a plongé quelque part, sans le vouloir, dans la contestation politique. Et là, j'ai petit à petit assumé un peu mon rôle de dessinateur un peu transgressif quand j'ai commencé à aborder directement des sujets plus politiques, c'est-à-dire la famille de Ben Ali, la corruption, la mafia, tout ça. Et mon anonymat était une sécurité que j'avais presque improvisée au début, sans trop savoir, et qui m'avait quand même servi à pouvoir aller très loin, justement, c'est-à-dire m'attaquer au tabou premier, qui n'était pas le prophète ni la religion, mais qui était Ben Ali en personne. Dessiner Ben Ali était en soi un sacrilège. Et donc, en entrant dans cette voie-là, me trouvant quelque part un peu suivi par des gens qui me commentaient tout ça, je me sentais un peu épris d'une forme de responsabilité, quelque part, une mission presque, hein, pour ne pas employer des termes trop prophétiques, mais il y avait autour de moi, quelque part, une sorte de soutien qui m'avait encouragé à aller très loin et à prendre des risques. Bien sûr, j'étais à Paris, je savais comment me connecter de manière sécurisée, ce qui fait que, pour parler de l'évolution, il y a eu la révolution par la suite, qui était une double libération pour moi, mais j'ai gardé l'anonymat parce que les tabous se sont un peu déplacés. Alors, si ce n'est plus un tabou politique, c'est devenu un tabou religieux. Bon, ça l'a toujours été, on peut dire, dans nos sociétés, mais là, la religion est restée pour moi le seul champ interdit, le seul territoire défendu.
Oui, on peut parler de la corruption plus facilement que de la religion.
Aujourd'hui, tout le monde, la liberté, quelque part, est un acquis de la révolution. En Tunisie, tout le monde parle, s'exprime librement, sur le sexe aussi, hein, y a pas de tabou. Mais la religion demeure quelque part une sorte de point de résistance où quelque part on sait qu'on met son pied dans le plat quand on commence à vouloir critiquer même la véracité ou pas de l'existence de Dieu.
Ouais. Comment vous avez vécu la décision du journal américain, le New York Times, d'arrêter les caricatures? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez, en tant que caricaturiste, faire partie d'une ethnie de gens maudits? Ou en tout cas, qui apporte la colère, qui apporte le bazar?
Alors, je pense que le statut professionnel du caricaturiste, dans cette époque justement du politiquement correct, est réellement menacé. Par contre, ça ouvre la voie à quelque chose de que moi je revendique, c'est ce caricature libre, caricaturiste libre, c'est-à-dire qui travaille par des médias alternatifs, par l'internet et tout ça. Et on trouve dans ce domaine-là beaucoup de caricatures beaucoup plus transgressives et très libres justement. Donc moi, ça m'attriste,
mais
effectivement.
Beaucoup moins vu aussi.
Alors oui, on souffre d'un manque de visibilité, bien sûr. Il ne faut pas défendre ça, parce que c'est surtout signe quand même d'une sorte de régression en termes de liberté. Moi, quand j'observe ça, je me dis, j'ai presque anticipé. C'est-à-dire, je me suis habitué à ça depuis la Tunisie. Donc quand je vois ça, ça m'attriste que le monde occidental, qui revendique être le monde des libertés, tout ça, se retrouve finalement presque en compétition, pas avec le monde arabe, mais au moins avec la Tunisie. Parce que la Tunisie, je pense qu'en termes de liberté, on n'est plus tellement très différent de ce qui se passe en France. Et des fois, je me demande même sur certains sujets si en Tunisie, on n'est pas peut-être plus ouvert.
Alors Michel Herman, qu'est-ce qui se passe dans un pays comme la France, plus largement comme l'Europe ?
Je crois qu'il connaît le politiquement correct, si vous voulez, je vais en dire un mot pour le définir, mais pour moi, il se passe quelque chose de très profond, c'est que, si vous voulez, la liberté, c'est un sentiment. La liberté, c'est un sentiment, et comme tout sentiment, il repose à la fois sur notre désir, liberté, ça se désire, et sur la volonté de la mettre en œuvre, de la vivre. Bon, et tout ça, ça fonctionne à l'émotion. L'une des émotions premières de la liberté, c'est sans doute la fierté. Ça peut être la colère aussi qui est un moteur. D'ailleurs, est-ce qu'on serait fier d'une décision qu'on a été contraint de prendre, et qu'on n'a pas pris librement, selon sa conscience? On n'en serait pas fier du tout. Donc la liberté, si vous voulez, c'est le devenir humain. C'est la liberté égale l'homme. L'homme, à mon avis, ne naît pas libre. Enfin, si, il naît libre, mais il faut aussi le devenir. Bon. L'homme est programmé pour être libre, en quelque sorte, par rapport aux animaux qui sont beaucoup plus déterminés par leur instinct, etc. etc. Donc il y a quelque chose dans la société occidentale qui fait qu'il y a un désir, un appétit, une libido de liberté qui n'existe plus. Et qui est amoindri. J'exagère en disant qu'il n'existe plus. Qui est amoindri. Bon. Alors à cela, on peut trouver...
Au nom de ne pas froisser l'autre. Au nom de respecter l'autre, quand même.
Alors, c'est au nom... Alors, je vais essayer de l'expliquer très, très vite, parce qu'au fond, c'est un phénomène très complexe. Au fond, personne ne comprend absolument consciemment. Bon. Pourquoi ne pas froisser l'autre? Ne pas vouloir froisser l'autre. Dans la vie de tous les jours, on est froissé tous les jours. Là, je ne sais pas, je me suis garé tout à l'heure en venant ici, on m'a fait signe de dégager parce que je gênais, etc. etc. C'est un peu désagréable. Est-ce que je vais exiger qu'on s'adresse à moi sans me froisser pour me dire que je ne me gare pas au bon endroit? Bon. Il y a une sorte de morale aujourd'hui, de moraline, qui fait qu'on doit se soumettre en quelque sorte dans les relations sociales à ce qu'est l'autre. Parce que l'autre est de plus en plus susceptible, de plus en plus offensé. Si vous me dites quelque chose, si on me reproche quelque chose, c'est parce que, je sais pas, moi, je suis grand, je suis petit, j'ai pas la bonne couleur de peau, enfin, etc., etc. Vous voyez, il y a une sorte de... L'humanisme est devenu, dans les pays occidentaux, en France en particulier, une forme d'obligation. Voilà. Hein. Je suis obligé
par... Une nouvelle forme de politesse ?
Pardon ?
Une nouvelle forme de politesse ?
Alors précisément, votre intervention est intéressante parce que, à mon avis, dans les relations sociales, vous savez, pour moi, le grand philosophe français de la modernité, beaucoup de philosophes ne le disent pas, mais c'est Sartre. On ne veut pas le reconnaître, mais c'est lui. Bon. Pour moi, il a absolument tout dit. Il ne s'est pas forcément appliqué à lui-même dans ses propres comportements, non, mais il a absolument tout dit. Et pour Sartre, qu'est-ce que c'est ? À un moment ou à un autre, on est soumis au regard des autres, mais tous les jours. Là, Emmanuel, quand vous me posez une question, d'une certaine manière, vous orientez le débat. J'aurais peut-être envie de parler différemment. Mais je suis dans votre émission, et bien je respecte au fond le déroulé de l'émission.
Vous avez quelques minutes pour vous exprimer complètement librement. Hein. Je le rappelle bien,
absolument.
Vous êtes caricaturiste tunisien, et vous, Michel Herrmann, philosophe, puisque vous publiez « Aimons-nous encore la liberté ». Allez, on redonne la parole au standard 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Bonjour à 7 milliards de voisins. Chez nous, en 4, les réseaux sociaux sont devenus le seul moyen pour les Canadiens de s'exprimer librement. Parce que nous vivons dans un pays où il est interdit de manifester, où le régime au pouvoir contrôle tout. Mais le grand problème reste les publications relatives à une ethnie. Dans ces pays, nous nous retrouvons avec de nombreuses ethnies qui sont composées avec différentes formes de diversité. Car certaines de ces tribus se considèrent les meilleures dans ce pays. C'est pourquoi si un cadet exprime ses traditions ou ses mœurs en publiant, quelquefois, l'acteur de ces publications est menacé et voire même sa mort. Donc on est encore dépourvu de certaines capacités morales qui nous permettent d'accepter l'autre dans toutes ses diversités. Donc, à l'heure actuelle, publier sur une ethnie cause énormément de problèmes chez nous. Je vous remercie.
Voilà, encore un sujet compliqué sur le continent africain. C'était un message d'un voisin tchadien qui a posté sur WhatsApp. Je vous rappelle notre numéro pour nous appeler en direct et débattre. 33 1 84 22 71 71. On a Amadou en ligne qui nous appelle de Conakry, de Guinée. Bonjour Amadou.
Bonjour Emmanuel,
Amadou.
Bonjour à tous.
Soyez le bienvenu Amadou, vous avez 23 ans, vous êtes beaucoup évidemment sur les réseaux sociaux, vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu de votre voisin au Tchad, le sujet extrêmement compliqué à aborder aujourd'hui, les ethnies?
Oui, bien sûr, c'est très compliqué dans la mesure où nous risquons de frustrer, disons, nos semblables, nos autres amis et voisins. Donc, moi, personnellement, je m'autocensure beaucoup à parler du phénomène ethnique, religieux ou autre type de sujet qui pourrait choquer mes proches. Donc, comme je l'ai dit, sur Internet, par exemple, c'est vrai que nous avons la liberté d'expression à travers les réseaux sociaux. Nous pouvons dire tout en respectant les règles, disons, des concepteurs de ces médias sociaux. Alors, vous n'êtes que le seul émetteur. Donc, vous émettez un message pensant que le message il est bien pour vous, pendant que ce message-là n'est pas partagé à bon avis avec vos internautes ou bien, disons, avec les autres followers.
Vous voulez dire qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas cette règle qui est qu'on s'écoute les uns les autres pour se répondre?
Bien évidemment, vous émettez un message, vous n'aurez des réponses qu'au par la suite. Il n'y a pas une communication interpersonnelle directe. Donc la communication que vous faites, elle est indirecte. Vous laissez un message et par la suite, quelqu'un voit, ça lui plaît ou pas, il pose son commentaire. Et si c'est une communication, disons, directe, interpersonnelle avec quelqu'un que vous avez en face, là vous en discutez, vous touchez certaines idées qui ne lui plaît pas, il vous détourne automatiquement. Et si vous avez la capacité de comprendre ses émotions, là vous changez automatiquement de sujet pour s'adapter à lui, pour ne pas les frustrer. Par contre, si c'est sur Internet, vous émettez le message, et c'est comme tout de suite quand le monsieur qui a intervenu a dit, l'un de ses proches lui a dit de supprimer le message qu'il a posté sur Internet à travers, quand il a voulu défendre le monsieur homosexuel, je pense bien.
C'est ça, sur un sujet dont vous pourriez éventuellement débattre dans la réalité, oralement avec des proches, par exemple.
Voilà, oralement avec des proches. Là, quand si ça ne leur plaît pas, ils vous disent automatiquement, mais bien sûr, ça ne nous plaît pas, et vous trouverez une bonne manière de vous excuser. Par contre, si c'est sur Internet, vous ne pouvez pas le faire.
Merci Amadou. On a bien compris votre point de vue, c'est intéressant. Merci de nous avoir appelé de Conakry. Le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quoi? C'est le rendre visible de tout ce qui ne va pas dans la façon de débattre, ou c'est aussi un acteur de du désordre de ces débats, de ces problèmes de politiquement correct, hein, à votre avis, Zed?
Oui, moi je suis un peu le produit des réseaux sociaux, donc moi je leur dois beaucoup, mais je m'interroge effectivement sur certains débordements. Je pense qu'il y a de tout, hein. Moi je ne peux pas comme ça, en un mot, résumer un peu cette complexité du réseau social par rapport au débat public. Je pense qu'en tout cas, en tant que citoyen aussi du monde arabe, je peux constater que ça quand même contribue à la révolution, du moins en Tunisie, en Égypte aussi. Donc ça a quand même permis de véhiculer une parole et tout ça. Aujourd'hui, maintenant que la parole est libérée quelque part en Tunisie, les réseaux sociaux sont restés peut-être beaucoup plus qu'en France, finalement une sorte de jauge nécessaire. Qui sert aussi un peu à mesurer l'opinion et puis à...
On est au lendemain, là, pratiquement, du premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie. Les électeurs ont clairement, d'ailleurs, montré leur envie de tout changer dans le personnel politique, dans les partis, le rejet des partis classiques. Est-ce qu'à votre avis, il y a eu des sujets encore clairement tabous dans le débat politique? Il y a eu des débats télévisés qui ont eu beaucoup de succès.
Alors non, il n'y a pas eu de tabou, puisque les questions par rapport à la religion, par exemple, oui, des questions, par exemple, chez certains de défendre l'idée qu'on allait plus appliquer le Coran dans la législation par rapport aux lois de tout ce qui est héritage, homme-femme et tout ça. Donc il y a des gens qui parlent exactement de ça, c'est-à-dire finalement la religion, quelle est sa place dans le débat public, dans la loi et tout ça. Par rapport à l'homosexualité, pareil, ce sont des choses qui sont discutées. Donc, je ne suis pas là pour faire la publicité de la Tunisie, mais au moins de reconnaître, même si on est dans une forme de débâcle économique, il y a au moins une forme de débat qui a été réhabilité.
Alors justement, on aimerait bien avoir votre avis sur ce qui est en train de se passer en Europe, en Amérique du Nord. À quel moment, on va aborder la question du sexisme, hein, depuis MeToo, hein, la déferlante, voire même déjà avant. À partir de quel moment on peut parler des publicités sexistes? Parce que c'est vrai que s'il y a vraiment un secteur aujourd'hui qui est affecté par le contrôle... C'est bien le monde de la publicité. Alors vous me direz, ce n'est que de la publicité, c'est pas du débat politique, du débat philosophique, donc c'est pas très grave. En tout cas, le débat tourmente le Royaume-Uni, parce que depuis juin dernier dans le pays, l'autorité des standards de la publicité, une agence donc nationale, a le droit d'interdire des spots publicitaires qui véhiculeraient donc des clichés sexistes. Et l'agence publique a déjà demandé la suspension de deux publicités en vidéo, l'une pour du fromage à tartiner, l'autre pour une voiture. Ces interdictions ont créé la controverse, et Charlie Dupiot, notre reporter, a joint la directrice de chargée des enquêtes de cette agence, Catherine Drouet.
New dad too.
Mm-hmm.
Wow, look at this lunch.
Yeah, hard to choose. Oh, this looks good. That's really good. Well, that's the Philadelphia.
Sur cette publicité pour Philadelphia, on voit une femme entrer dans un restaurant et déposer son bébé dans les bras de son père avant de repartir. Et là, très vite, le père dépose le bébé sur un comptoir tournant, sur lequel les assiettes défilent, et parce qu'il est distrait par son déjeuner qui arrive, il se jette dessus. Mais cela lui fait oublier son bébé. Et quand il comprend ce qu'il a fait, quand il réalise qu'il a laissé son bébé sur ce comptoir tournant, il se précipite pour le reprendre dans ses bras et il lui dit « Ah, ne le dis pas à maman !» Cette publicité, nous l'avons trouvée rigolote, mais elle repose sur un stéréotype dangereux. L'idée que les hommes ne peuvent pas s'occuper aussi bien de leurs enfants que les femmes. Donc nous avons interdit cette pub, sur cette base-là.
Et l'argument alors du géant de l'agroalimentaire Mondelez, hein, qui produit cette marque de fromage qui s'appelle Philadelphia, son argument est de dire que malgré tout, à l'écran, ce sont des hommes qui s'occupent de l'enfant.
Oui, alors bien sûr, cette pub met en scène des hommes qui sont actifs dans leur parentalité, et ça c'est vrai que c'est positif. Mais dans ce spot en particulier, on voit aussi leur incapacité à remplir cette tâche comme il le faut.
Il y a également la dernière campagne de Volkswagen, donc marque de voiture que vous avez interdite. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi est-ce qu'on voit à l'écran ?
Oui, dans cette deuxième publicité que nous avons aussi interdite, on voit plusieurs scènes avec des personnes qui se réalisent, qui se dépassent dans différentes actions. D'abord, on voit un homme qui campe au bord d'une falaise. On imagine qu'il a escaladé pour monter jusque-là. On voit aussi un autre homme qui est athlète paralympique. Et puis apparaît à l'écran un astronaute. Tous sont des hommes. On voit une situation plus passive, celle d'une mère en train de lire. Elle est assise tranquillement avec sa poussette à côté. Pour nous, cette juxtaposition, ce contraste, renforce des stéréotypes nocifs, encore une fois. Et nous avons émis des orientations selon lesquelles il faut faire très attention à la façon dont les publicités dépeignent les rôles masculins et les rôles féminins.
Comment vous réagissez aux critiques qui disent que votre agence, donc qui s'occupe de vérifier le contenu des publicités, notamment de vérifier qu'elles ne sont pas sexistes, qui vous disent que vous limitez un petit peu la liberté d'expression en faisant régner le politiquement correct?
Alors par exemple, parmi les recommandations que nous donnons, il y a celle de ne pas montrer dans une publicité une femme qui échoue à quelque chose, parce qu'elle est une femme. Donc ne montrez pas une femme qui ne sait pas bien se garer, tout comme il ne faut pas montrer d'homme qui ne sait pas changer une couche. Pour moi, non, ce n'est pas du politiquement correct.
Certaines voix, notamment d'experts en publicité, regrettent de voir votre agence assumer un rôle de police de moralité et disent notamment que l'agence semble être un peu en décalage avec le reste de la société. Qu'est-ce que vous pouvez répondre également là-dessus ?
Nous n'avons pas introduit ces règles sur un coup de tête. Nous avons mené des recherches. Les dangereux stéréotypes sexistes pourraient contribuer aux inégalités de genre que l'on voit au Royaume-Uni. Donc, une publicité en elle-même n'aura peut-être pas d'effet absolu, mais c'est plutôt un effet graduel, dû à toutes ces images avec lesquelles on nous bombarde. Ça peut expliquer aussi pourquoi, par exemple, moins de femmes que d'hommes deviennent ingénieurs. Et l'industrie de la pub a eu un délai de 6 mois pour consulter les recommandations que nous avons mises en place, avant que nous nous mettions à interdire les spots qui allaient à leur encontre en juin dernier. Mais il reste encore quelques exemples qui, selon nous, montrent qu'il y a encore du travail. Et tout ce débat autour des pubs interdites va permettre d'informer l'industrie de la publicité de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est comme ça qu'on va avancer.
Alors, il faut quand même préciser qu'au Royaume-Uni, l'autorité des standards de la publicité a reçu des plaintes pour 475 spots de pub. 2 ont été interdits, donc on va dire que finalement, c'est pas beaucoup. Mais ça veut dire qu'on a des citoyens, on a des activistes, on a des associations qui sont demandeurs de toujours plus de contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Hermon ?
Écoutez, moi, j'avais entendu parler de ce phénomène, mais pas dans le détail. Là, je viens de l'entendre précisément. Je suis extrêmement choqué, je trouve ça absurde. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, si vous voulez, le second degré n'existe pas. L'humour, le sens du décalage qui a toujours fait l'art de la publicité n'existe plus. Et d'autre part, on met en scène, on donne un sens univoque à des événements de la vie de tous les jours. Donc il n'est plus possible de jouer avec le langage. Et s'il faut le dire en un mot, tout le politiquement correct repose là-dessus, c'est dit d'ailleurs assez clairement, un énoncé, un dessin.
Au nom de l'enfance, de l'offense, l'offense de certains, la blessure finalement.
Qui pourrait se sentir offensé, aux États-Unis on parle même de micro-agression, par une représentation. Or, encore juste un mot, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype ? Un stéréotype, c'est une représentation que l'on partage, c'est rien d'autre. Chez les Grecs, ça s'appelait un lieu.
Oui, voilà. Z, en tant que caricaturiste, ce que nous explique Michel Hermant, c'est qu'on va tous devenir crétins, du coup ?
Alors moi, je me pose une question plus large, c'est par rapport au financement de ces groupes de pression qui, en impression, emploient du monde pour surveiller les réseaux sociaux, pour trouver la petite bête partout. C'est-à-dire, c'est lié quand même, c'est un phénomène qui peut on peut l'interroger d'un point de vue économique. Quel est ce système d'ONG ? Parce qu'on en voit naître de partout et dans le seul but, la seule profession de ces gens-là, ça peut être des stagiaires qui sont là à carrément balayer les tweets pour créer des polémiques, pour devenir visibles.
Au nom de la protection des femmes,
au nom de n'importe quoi.
Qui sont pas des minorités,
ça peut être n'importe quel sujet. Ça peut être pour la défense de la religion, ça peut être pour la défense des gros, des maigres, de je ne sais quoi. C'est quoi l'objectif? C'est d'avoir la visibilité et peut-être justifier les modes de financement.
Alors moi, je pose... Quel est le rôle de la culture américaine dans le développement du politiquement correct aujourd'hui? Je précise que, par exemple, aujourd'hui, porter des tresses, si on n'a pas la peau noire, ça peut être interprété comme une provocation, une appropriation culturelle, par exemple.
Oui. Le fond de tout ça, si vous voulez, c'est une représentation du fonctionnement politique tout à fait différent. S'il fallait répondre en un mot à votre question, Emmanuel, c'est la politique des lobbies. La politique, c'est du lobbying aux États-Unis. Donc, ce sont. Alors, aux États-Unis, on est dans une culture, effectivement, tout à fait différente de la culture française. Hein. Au fond, aux États-Unis, du point de vue de la loi, on peut tout dire. Hein. Il y a même des sites que nous jugeons, nous, tout à fait inacceptables, comme des sites nazis. Qui sont hébergés aux États-Unis, par exemple, et qui diffusent leurs idées nauséabondes en France, ou leurs représentations nauséabondes en France. Bon. Mais en réalité, dans un pays qui est un pays qui fonctionne par lobby, par groupe de pression, qui sont à la fois sociales, religieuses, ethniques, etc., etc., eh bien, on en est arrivé à ce que, au fond, les groupes de pression représentent des idées, des propositions politiques, de points de vue extrêmement polémiques, pour s'imposer, pour prendre le pouvoir.
Et le fond, c'est ça, c'est le souvent pouvoir. Au nom de la liberté, c'est voilà, ça, ce qui est paradoxal.
Tout ça au nom de la liberté.
Alors d'ailleurs, je vous lis le message de Gillon, tout ça semble très paradoxal, mais ça a du sens, il nous dit qu'il était inscrit, il est à Kinshasa, il était inscrit dans un groupe Facebook sur la Deuxième Guerre mondiale, il est passionné d'histoire. Il dit « Dans mes posts, j'ai parlé d'Hitler, c'était juste pour mémoire. J'ai été censuré 24 heures, puis 7 jours, puis 30 jours par Facebook. Je ne faisais pas l'apologie du nazisme. C'est la même chose pour l'antisémitisme. Si on critique Israël directement, on est taxé d'antisémitisme. Donc voilà, c'est vraiment un problème de liberté d'expression. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'antisionisme est devenu l'antisémitisme et c'est largement débattu. Aujourd'hui, vous le dites dans votre livre, Michel Herrmann, et ça sera peut-être la conclusion aussi de notre discussion, la liberté a de moins en moins de place. Ce qui compte, c'est le choix, sous-entendu dans une société consumériste. Le choix d'acheter telle ou telle chose, de voyager dans tel ou tel endroit, si tant est qu'on ait des visas, et que ça a remplacé la liberté d'expression.
Oui, finalement, on a une représentation de la liberté qui est un ensemble de possibles. Hein, en France, par exemple, il est vrai que si vous avez quelques moyens, vous pouvez faire beaucoup de choses. Si, par exemple...
ça donne une illusion de liberté ?
Pardon ?
C'est une illusion de liberté ?
C'est une illusion de liberté, c'est-à-dire que nous plaçons notre désir de liberté non plus dans la réalisation, dans un véritable choix conscient de faire telle ou telle chose, mais dans la possibilité de le faire. Ça se traduit, par exemple, à mon avis, de plus en plus, pas seulement en France d'ailleurs, dans le fait que beaucoup de gens se réfugient dans l'abstention. Ils ont la capacité de voter. Il y a bien des citoyens dans différents pays qui aimeraient avoir droit à des élections libres. En France, on y a droit quand même depuis extrêmement longtemps. Mais c'est une possibilité qu'on n'occupe pas. Ça nous suffit, au fond, dans une société consumériste, de savoir qu'on a la possibilité d'être libre. Et c'est une manière, justement, d'éteindre un peu le désir de l'être. Hein, la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.
Z, vous êtes d'accord avec cette vision d'un avatar de liberté ?
Oui, je pense que ça convient très bien à ce qui se passe. Je pense aussi que, tout à l'heure, on en parlait avant l'émission, c'est le consensus qui est devenu le maître mot. Le consensus, et puis l'appel à la responsabilité, enfin tous ces mots qui infantilisent quelque part l'opinion et l'individu.
On se parlait des personnes consensuelles aujourd'hui, qui sont très valorisées socialement, ce sont des personnes qui sont finalement fines, sages, calmes, alors que celui qui n'est pas consensuel, c'est vite quelqu'un d'un peu hystérique.
Tout à fait, on psychologise très vite les personnes qui sortent un peu du territoire défendu, et on considère que c'est un transgressif, que c'est un irresponsable, et que quelque part il fait du trouble à l'ordre public. Quelque part on est dans ça.
C'est le modèle nord-américain, alors que notre modèle à nous, c'est le modèle de l'autonomie, c'est le sapere aude kantien, pense par toi-même.
Vous sentez encore vu comme ça, Z, ou pas?
Moi, je suis vu comme un dessinateur blasphématoire. Par exemple, je ne suis pas invité à parler dans des radios en Tunisie parce que je suis connoté. Je suis un peu, alors, à toute proportion gardée, une sorte de dieudonné de la caricature en Tunisie, parce que je serais islamophobe, je m'attaque au sacré. Alors bien sûr, je suis content quand je suis là, ça me permet de me rattraper en saluant mes amis tunisiens, mais voilà.
Pour l'instant, vous avez été quand même assez calme et tiède, hein, je dirais, non ? Qu'est-ce que vous aimez dire, par exemple, que vous ne pouvez pas dire en Tunisie ? Allez-y, vous pouvez le dire.
Ah non, non, je peux tout dire dans mon blog, moi justement, je peux tout dire. Tout
sur la radio en Tunisie ?
Non, 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 radio en Tunisie, moi je suis, je mets en doute même l'existence du Coran et tout ça, et ça ne s'appelait pas.
Bon, donc, allez, on terminera là-dessus, c'est dans quelques instants, c'est les 4 tops, et on se retrouve demain, bien sûr, chez 7 milliards de voisins. Merci à vous de votre fidélité.